C'est la bande originale, soyez les bienvenus et bonne année et bonne santé avec Leïla Kadoboudali.
Bonjour,
Morgane Dalimon, Guillermo Guise qui arrive à s'applaudir et ne pas se toucher en même temps. Daniel Morin,
joué,
tout à l'heure Tanguy Pastureau et notre invité Monsieur Philippe Besson. Déjà, avant de commencer, est-ce qu'il y a eu des bonnes résolutions de prise, Leïla?
Ben non, c'est surtout pas en prendre la bonne résolution, parce que sinon je les tiens pas. Donc.
Ok, Morgane?
Oh non, on va faire ce qu'on peut.
Guillermo?
Moi, je suis au top, je pense que je vais gagner tous les blind tests. Ça, c'est ma rêve. Dont celui-ci.
Et dire cette phrase.
Et de parler peut-être un peu plus clairement.
Et reprendre rendez-vous chez l'orthophoniste direct.
Je suis Daniel. Content et je suis pas le pire.
Pas de résolution, toi?
Ben non, ça marche jamais. Ça marche jamais, Nagui.
Ah merde. Enfin, j'en avais pris, mais
c'est vrai.
Ouais. Bah,
dis-nous.
Non, je m'étais dit sport.
Ah oui, non, mais ça aussi. Mais moi, je me le dis tous les lundis.
Non, parce que j'en fais. Toi aussi, t'en fais un
oui,
peu.
Oui, mais bon, voilà, je me le dis surtout tous les lundis.
Dit, j'en fais un tout petit peu plus cette année, parce que tu vois, l'horloge biologique et tout
oui,
ça.
Cette histoire-là.
Ce fameux truc-là, j'ai revu ma pièce d'identité. Je dirais quand même.
Le temps passe.
Sur le papier,
ça tourne.
La télé, il est maquillé, mais là, sur le papier, il est
19h.
Moi, j'ai vu l'horloge, elle est pétée. Donc.
Nous allons parler avec Philippe Besson de son nouveau roman Paris Briançon.
Quelle rigolade!
C'est une destination.
Merci Philippe.
En tout cas, il y a suffisamment de galeries de portraits pour trouver de quoi d'abord soit s'identifier, soit s'intéresser aux autres, que tu ne peux pas comprendre, Daniel.
Ah, c'est pour ça.
C'est Jules Yard, ce nouveau roman. On en parle avec lui dans quelques instants. Mais évidemment, le blind test qui va avec.
Brothers, les.
Quoi?
Baby Brothers, non? Un truc comme ça?
Mais t'arrives plus à articuler du tout, quoi.
C'est jamais, Nagui, ça fait 6 ans qu'on bosse ensemble.
Déjà?
Moi je suis nul sur ça, mais je connais
pas. Bah oui, c'est super cool. C'est pas.
Monsieur le DJ!
Mais c'est pas ce que je viens de dire, non?
T'as dit quoi?
Doobie. Quelque chose genre.
Brothers!
Quelque chose Brothers, quoi.
Allez, c'est ça.
Train, long train running!
Voilà, merci.
The train.
Oui, Leïla.
Voilà. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir train dedans.
Okay. Ça y a du train, hein.
On va prendre un café?
Ouais, un train. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir avec train?
Et c'était qui alors le groupe? Le groupe, c'était quoi?
Les Doobie Brothers.
Ah, voilà. Même quand j'ai bon, on me donne pas la
quoi, calme-toi.
Il est où, mon stylo?
Tiens.
Je veux mon stylo.
Nagui, on dirait vraiment une vieille dame qui cherche dans le sac à main.
C'est vraiment un très grand radio. S'il vous plaît,
où sont mes cachous?
Non, mais j'étais content, j'avais mon stylo 2022.
Je comprends, madame.
J'ai préparé ma trousse ce matin. Non, mais alors.
Allez, écoutez,
et qui chante ça?
Leïla,
oui.
Richard Anthony,
yes.
J'entends siffler le train. Maman, il est pour toi ce point. Elle adore.
Et là, super connu.
Morgane.
Oui. Les lyriques, attends. Morgane, tu mélanges les émissions. Je fais en effet une émission de karaoké, mais c'est pas ici.
C'est Soul Sister.
Oui. Et le groupe.
Train.
Ben voilà, tout simplement. Cette fille au bout du rouleau.
Elle est pas bloquée cette chanson.
La tristesse du hey.
Tonight.
C'était bon ça. Qui chante ça?
Daniel.
Oui.
Et Rita.
Oh joli.
Johnny.
Alors c'est peut-être pas très connu, mais c'est quand même dans leur style.
Daniel.
Non.
Ah, c'est baisé.
Oui.
Ouais, bravo. La guitare. Là.
Tellement assez léger.
Le Rock and Roll Train. Pour l'instant, 2 points pour Morgane, 1 pour Leïla, 1 pour Guillermo, 1 pour Daniel. Et qui chante ça?
Ah oui.
Ça, c'est pas facile.
Daniel?
Ouais.
Train.
Alors,
last
oui?
Train, Leïla, last train.
Non. Il y a forcément une histoire de train. Guillermo, tu connais pas?
Ah, ça me dit rien, j'ai jamais entendu.
Il n'y a pas de voix.
Si, si, non, mais en plus, c'est super connu. Non,
c'est pas Maurice.
Ça vient pas. Ce sont les Clash.
Ah bon?
Mais,
ah,
ouais.
Mais non.
Si.
Ah ouais.
Mais je dois reconnaître que.
C'est décevant?
Ouais, ouais, ouais. Ouais.
C'est comme en Clash.
Clash gentil, quoi. Train in Vain, c'était le titre. Bon, allez, tout se joue sur le dernier titre. Attention.
Daniel, Party Train?
Non. J'adore le On the Board. T'as envie de monter dans le train? Non.
Gorillaz, non?
Ah, pas mal, Gorillaz. Nina Hagen?
Non. Ouais, African Reggae. Super méga connu.
Ah ouais.
C'est Ballast Train, de toute façon.
Non, ça s'appelle Crazy Train, le titre, mais je vous demande le nom du monsieur. Ah, la victoire se joue là-dessus.
Attends.
Si personne ne trouve, c'est Morgan, donc faites quelque chose.
Oui.
Van Halen?
Non, mais c'est l'esprit. Une famille de barbe.
Aziz Dop?
Non. Famille.
Ah, c'est pas...
Allez.
Oasis? Et Hanson?
C'est pas du tout le son d'Oasis.
Non.
Ah, non. Personne ne trouve?
Attends.
Credence?
Il y a un moment, il va falloir parler un peu avec Philippe Besson quand même. C'est là, il est midi 25. Hein. Il a plus que 4 minutes. Hein.
Ah, je sais pas.
C'est connu, c'est... vraiment
c'est... Si, c'est connu.
Ils ont chanté quoi d'autre?
C'est Ozzy Osbourne.
Ah, voilà.
Ah, mais c'est alors Black Sabbath?
Ouais, mais là, c'est Ozzy Osbourne tout seul. Ah, pas avec son groupe. Oh, monsieur, je connais Ozzy Osbourne. Ouais, et c'est Morgane Cadignan qui gagne. Yeah, yeah. Voilà. Merci d'accueillir Philippe Besson.
Bonjour, bonjour.
France Inter.
Bienvenue, Philippe.
Merci.
Avec Nagui.
Avec Paris-Briançon et cette histoire de train, on a joué avec les trains tout au long de ce blind test parce que déjà en exergue de votre livre, ça commence avec cette citation d'Alain Bachung.
La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine.
Chanson qui revient d'ailleurs un peu plus loin dans le Vercors, dans le livre. Unité de temps, ça se passe une nuit. Unité de lieu, c'est dans un train. Unité d'action, ils vont tous vivre la même histoire en même temps, sauf qu'il y a plein de petites actions, j'allais dire, qui se déroulent dans les compartiments.
Oui, parce que ce sont en fait une douzaine de personnes qui montent à bord de ce train de nuit qui relie Paris aux Hautes-Alpes. Donc ils partent, il est 21h, ils doivent arriver à 8h du matin. Ils se connaissent pas, c'est ça qui m'intéressait au départ, c'est de réunir des gens qui n'auraient jamais dû se rencontrer autrement, que le hasard rassemble en fait, qui n'ont a priori aucun point commun, sauf celui de se retrouver dans ce train-là, ce soir-là, cette nuit-là. Ça, c'est l'occasion, évidemment.
J'aime bien le a priori rien en commun, parce qu'ils ils vont se découvrir beaucoup de certains, en tout cas des points en commun. Il y a ceux qui se disent zut, j'ai partagé compartiment avec machin.
Oui, l'appréhension de la couchette.
Ou alors de se dire, ouais, mais je sais pas si elle est encore vivace à l'esprit de tout le monde. Cette appréhension-là de prendre les trains de nuit qui se font quand même relativement rares.
Qui reviennent.
Ouais, revient. Et puis vous le précisez d'ailleurs qu'on se sent presque obligé d'aller de plus en plus vite dans la vie. On zappe, tout est dans l'accélération et il n'y a pas que le TGV, mais tout est fait pour aller plus vite.
Mais c'est ça qui a condamné le train de nuit d'ailleurs, parce que quand on regarde au début des années 80, il y avait encore beaucoup de lignes de train de nuit et puis elles ont quasiment toutes disparu parce qu'effectivement le TGV a fait son œuvre et qu'on peut rejoindre telle ville en 2 heures ou 3 heures, donc pourquoi mettre 12 heures pour aller dans les Alpes? Donc c'est ça, et puis parce que on se disait c'est insalubre ou c'est sale ou c'est bruyant ou c'est je sais pas quoi, et sauf que ça revient effectivement un
ou
tout petit peu.
Ou c'est pas très sécure
ou
aussi.
C'est pas très sécure, bien sûr, il y a même des compartiments réservés aux femmes parce qu'il y avait des agressions, etc. Et finalement, on se rend compte que il y a quelque chose qui plaît puisqu'on rouvre des lignes. D'abord parce que c'est moins cher, c'est plus écolo, etc. Et aussi, sans doute parce qu'il y a un truc un peu romanesque et romantique dans cette espèce de voyage qui arrive. C'est moi ça qui m'a décidé au fond à écrire le livre, c'est que je me suis dit, je me souvenais de voyages que j'avais fait en train de nuit.
C'est vrai.
Et je me disais quand même, il y avait une espèce d'ambiance, d'atmosphère qui est incomparable qu'on ne ressent nulle part ailleurs. D'abord parce qu'on est avec des inconnus, et ensuite parce que on est dans cette, ce que vous disiez, dans ce huis clos. Donc on est entouré de nuit, cerné d'obscurité, et il peut tout arriver. Et moi j'aime bien l'idée que tout peut arriver dans un train de nuit.
Tout peut arriver. Il y a la promiscuité.
Oui.
Il y a
donc l'intimité.
Voilà. Mmh. Donc l'intimité, c'est ce que vous vous l'écrivez en toutes lettres. Et puis il y a ce côté Agatha Christie.
Ouais.
Finalement, parce que dès le début du livre, Leïla.
À la fin du prologue, première page, vraiment. Pour le moment, les passagers montent à bord joyeux, épuisés, préoccupés ou rien de tout cela. Parmi eux, certains seront morts au lever du jour.
Tadam !
Papa ! Mais oui.
C'est ça qui change. Cette mise en onde est dingue.
Parce que je crois qu'on va lire le livre. On lit le livre en sachant que certains parmi les passagers que je vais présenter les uns derrière les autres, certains seront morts au petit matin. Donc forcément, ça crée une
forme de... On ne sait pas qu'à un moment, Émile Louis monte dans la voiture et que là, tout arrive.
Mais attention, que va-t-il se passer dans le train Paris-Briançon? Il existe d'ailleurs le Paris-Briançon.
Bien sûr, il existe, oui,
bien sûr.
Je l'ai pris Jean
Daniel,
fois.
C'est vrai.
Moi, j'aurais pas tué ces personnes-là, en fait.
Qui arrive penché. C'est celui qui arrive penché.
Qui arrive un peu penché, absolument, oui.
Complètement.
Ouais. Parce qu'il arrive en montagne, donc les dernières villes dans lesquelles on arrive, Embrun et tout ça, ça monte, évidemment,
en Dauphin. Ouais.
Et ensuite, effectivement, donc Briançon, c'est un peu penché. D'ailleurs, ils ont refait la ligne il n'y a pas très longtemps parce qu'elle n'était pas non plus complètement sécure. Et c'est vrai que je voulais créer cette tension d'emblée. C'est-à-dire que dire au lecteur, je vais vous présenter des gens,
tout moment,
vous allez peut-être vous y attacher, qui sait, mais vous attachez pas trop parce qu'il y en a quand même à la fin que je vais décaniller. Et c'est ça qui m'intéressait.
Oh, parce que du coup,
on vit avec cette tension-là et on se demande du coup qui va mourir. Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui va faire que...
Alors, c'est pas tant se demander qui va mourir, c'est se demander ce qui va se passer globalement. Parce que, est-ce qu'il y en aura qu'un qui sera mort façon Agatha Christie et puis il faut retrouver le meurtrier? Ou est-ce qu'il y en aura plusieurs, je sais pas, d'une contamination quelconque? Il y a, en tout cas, dans cette galerie de portraits, un spectre d'âge assez large. Ça va d'étudiants qui se connaissent à peine et qui se disent, bah, tiens, on a un appart à la montagne, on y va. Jusqu'à des retraités qui d'un Airbnb d'un docteur qui va solder la situation tendue avec sa mère défunte. Il y a ce hockeyeur qui finalement doit se pointer, même s'il sait qu'il ne va pas jouer, mais il doit quand même être à l'entraînement, à l'échauffement à 8h du matin. Enfin bref, il y a tous ces portraits, mère de famille qui travaille, qui est productrice dans la télé, qui part avec ses deux gosses. Là aussi, enfin, il y a vraiment tout. Et Serge, le VRP.
Le VRP, on a fait le tour un peu.
Tout le monde y est. Mais c'est ça qui m'intéressait, c'était de...
Mais tous les âges, c'est ça que je voulais dire,
faire
toutes les classes sociales.
Avec des gens extrêmement différents. D'abord, c'est un truc que j'avais jamais fait jusque-là, parce que souvent, on s'est souvent vu dans cette émission, vous savez que moi je fais des livres
autour
de... Vous
êtes toujours le bienvenu. Malgré la tension que vous ressentez là aujourd'hui, vous êtes le bienvenu.
Et même pour les mauvais livres.
Oui, même pour les mauvais livres. Et Dieu sait que j'en ai écrit. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Mais l'idée, c'est que d'habitude, ça tourne autour de 2-3 personnes. Et là, je me suis dit, je vais essayer de faire une sorte de roman choral avec 10 personnages différents, mais de les faire exister vraiment. Et il fallait qu'ils appartiennent à des générations différentes, à des âges différents, à des conditions sociales différentes, parce qu'effectivement, c'est ça un train, ça réunit des gens qui n'ont rien en commun.
Rien à faire ensemble.
Oui. Et en même temps, ce qui m'intéresse, c'est que justement, on se rend compte que des gens qui, a priori, n'ont rien en commun, vont réussir à se rapprocher parce qu'on trouve toujours quelque chose qui nous rapproche. Et surtout, on cache toujours une sorte de secret où on dissimule toujours une sorte de névrose ou d'obsession qui finit par se révéler dans ce genre de circonstances et qui fait que tout d'un coup, alors que vous étiez éloigné, vous êtes très proche. C'est ça qui m'intéresse.
Tout est autour du hasard. Vous précisez que c'est un jeu de dés, d'ailleurs. C'est un mot arabe, hasard.
Absolument.
Et que c'est un concours de circonstances avec ces images de bifurcation qu'on peut imaginer avec les voies ferrées et les jeux de petits trains, mais bifurcation des vies qui se retrouvent.
C'est exactement ça.
Certains ont pris des décisions en se disant d'ailleurs à partir de quel moment pour rester dans les jeux, les dominos comme ça sont tombés les uns après les autres pour arriver à cette situation de se retrouver là à ce moment-là. Alors que il a fait son échographie ou son IRM du genou.
Il aurait dû prendre un autre train.
Il a entraînement, il y va quand même et ainsi de suite et il se retrouve là alors que Sur le papier, rien n'était fait
pour. Parce que vous avez remarqué, quand il y a par exemple une catastrophe aérienne ou je ne sais pas quoi, on nous dit tel passager en fait devait pas prendre cet avion, il l'a pris au dernier moment, etc. Ou le contraire, il devait monter dans cet avion, il n'y est pas monté. Et ça m'intéresse comment le hasard distribue les cartes. C'est-à-dire qu'effectivement, vous pouviez vous trouver trouver là. Et parfois, ça vient de très loin.
En fait, l'effet papillon.
Ça s'est décidé au dernier moment.
Ouais, c'est l'effet papillon.
Et ce qui est joli dans le hasard, c'est que à la fois, ça peut être une providence parce que ça favorise les rencontres. Et dans le livre, il y a, je crois, beaucoup de moments de vie très jolis et très tendres. Mais c'est aussi une forme de fatalité, c'est-à-dire que ça peut vous tomber dessus et vous laisser sur le carreau.
Et puis il y a des phrases aussi qui sont comme ça très très philosophiques, en tout cas dans votre pensée, dans votre écriture, quand vous parlez des couples qui survivent au dépareillement, c'est-à-dire avec la vie comme ça qui se dilue, évidemment le hasard. Un petit regard aussi sur sur la célébrité. Vous dites plus on est célèbre, plus le monde semble posséder un avis sur votre passé. C'est le vécu, ça ?
Moi, je suis pas célèbre, donc non, je parle d'autres gens. Donc non, mais c'est vrai que c'est assez curieux. C'est-à-dire qu'on sait bien que quand les gens ont une certaine notoriété, on leur invente des histoires où on a envie d'en savoir un peu plus sur eux. Il y a une espèce de chose très impudique au fond sur les gens célèbres.
Et puis d'un coup, on se découvre des cousins ou des copains.
Oui, voilà, c'est ça.
Moi, je vais vous dire qui il est vraiment.
C'est ça, exactement.
dans la vie.
Et comme en plus la jeune femme travaille à la télévision, on tout de suite on vient vers elle en lui disant mais machin, vous la connaissez, truc, vous l'avez rencontré, comment il est dans la vraie vie, est-ce que c'est un sale con. Et j'aime bien cette idée qu'on a besoin de s'approcher d'une forme de lumière comme ça pour essayer de comprendre qui sont les gens, ce qui est un peu curieux, mais voilà. C'est cette impudeur-là qui m'inquiète.
Et la vie aussi, il y a cette phrase que vous écrivez sur la vie peut se décider sur un moment de paresse.
Oui, c'est-à-dire qu'au fond, dans votre vie, il y a ce que vous choisissez de faire. Voilà, vous choisissez d'aller vers telle personne, vers telle situation, et puis il y a la vie décide pour vous. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous allez faire une rencontre ou vous avez plus envie de faire ça, vous allez bifurquer.
Par nonchalance.
Oui, c'est ça. Et donc il y a la part de ce qu'on a décidé, et il y a la part de ce qui s'est imposé à nous. Et moi, je suis très frappé. C'est des questions que je me pose souvent. Je l'avais fait notamment dans Arrête avec tes mensonges, un livre que j'ai publié il y a 5 ans. C'est que je me disais, au fond, tant de ma vie s'est décidé quand j'avais 17 ou 18 ou 19 ans, parce que les rencontres que j'ai faites à ce moment-là étaient des rencontres décisives, et elles m'ont amené dans une direction dont je n'ai pratiquement plus jamais bifurqué. C'est-à-dire que je suppose que parce que j'ai vécu ces histoires un peu compliquées quand j'avais 20 ans, je suis devenu ce type qui est écorché de sensibilité, etc., qui fait des livres, et que sans doute j'aurais pas écrit des livres si j'avais pas eu besoin de régler des comptes, ou enfin pas de régler des comptes, mais en tout cas de faire un sort à mon adolescence ou à mon enfance. Et donc, on est fabriqué par tout ça, mais on l'a pas décidé.
Ouais,
et c'est ça que j'aime beaucoup,
en fait. C'est bien de dire que c'est pas que de la décision, parce qu'on a tendance aujourd'hui avec le storytelling, cette façon de raconter sa propre vie, son itinéraire, de dire que tout a été en effet mûri, que c'est venu d'une véritable détermination, alors que
pas
en réalité
la vie... Ou d'une maîtrise. Or, c'est pas le cas.
C'est aussi du hasard.
Il faut être acteur de tout.
C'est ça.
Ouais, en fait, on n'est pas acteur de grand-chose.
Et comme disait la grande Corinne Charby, nous ne sommes que des boules de flippers.
C'est ça qui est...
Vous savez que très beau texte.
L'histoire du hasard et des avions ratés me fait penser à celle de Johnny Hallyday. Il m'avait raconté ça. Il est arrivé il devait prendre un avion à New York pour aller enregistrer à Memphis.
Ouais.
Et c'était, on va dire, comme d'habitude, pointé genre une demi-heure avant, comme il le ferait en France. Mais c'est Johnny, on le laisse passer. Sauf que là-bas, ils en avaient rien à faire. Donc évidemment, il fallait venir une heure avant. Et tout le monde, c'est-à-dire tout son groupe, producteur, manager, tout le monde gueule en disant « Mais vous, c'est une star, laissez-le monter, il faut qu'il aille. Il a rendez-vous avec les plus grands joueurs de country music à Memphis pour enregistrer. C'est un scandale s'il ne peut pas partir, ainsi de suite. » Les Américains n'ont rien voulu savoir. « Non, vous ne partez pas, vous ne partez pas, vous ne partez pas. » Finalement, il quitte l'aéroport et de la voiture, il voit l'avion qui monte et qui s'écrase au décollage. C'est-à-dire le rendez-vous était là.
Ouais.
Et s'ils avaient tant insisté que ça, l'histoire, la vie ne serait pas du tout...
Mais c'est ça qui, moi, m'intéresse dans ce genre de choses. C'est que tout d'un coup, on se trouve au bon endroit au bon moment ou au mauvais endroit au mauvais moment. Et on l'a pas décidé. Et donc, j'adore cette idée, vraiment, parce qu'elle est très romanesque et très romantique.
Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous.
Oui,
vous croyez, vous, au destin? Vous croyez à l'écriture de nos vies avant que ça se passe?
je sais plus qui disait, le hasard est un destin qui s'ignore. C'est ça, cette idée-là, c'est qu'effectivement, à un moment, c'est notre heure. Voilà, ça arrive. Ou à un moment, c'était pas notre heure et c'est pas arrivé. Et ça n'a pas dépendu de nous. Et en même temps, ce qui m'intéressait, c'était de se dire que, jusqu'au dernier moment, il faut essayer de vivre quand même intensément ces instants-là.
Alors, voilà. Il faut préciser que dans le livre, il n'y a pas que la mort qui plane. Pas, oui. Il y a aussi l'amour qui est présent. Oui. Il y a des rencontres, il y a des révélations qui se font aussi.
En tout cas, moi, je voulais construire un livre autour d'instants de grâce, d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces gens se rencontrent.
Et des préjugés aussi, parce que les jeunes préjugent sur les vieux.
Ou même Julia sur Serge,
la productrice.
Elle se dit, oh là là, il a un côté beauf, un ringard, etc. Mais et on se rend compte qu'il n'est pas comme ça.
Sauf que
et Julia
pas...
aussi, qui a un côté working girl.
Tous les hommes ne sont pas des prédateurs.
Oui, absolument.
Et les préjugés, en fait, peuvent tomber aussi, et c'est important de le dire, parce qu'ils sont dans ce train.
Oui, absolument.
Et qu'il y a cet enfermement aussi. Alors, c'est quelque chose de très positif. On parle de cette bulle qui est un endroit où tout d'un coup, on se livre, peut-être comme on ne le ferait pas ailleurs.
Parce que c'est plus facile de se livrer à quelqu'un que l'on ne connaît pas, c'est ce qui
peut-être,
dit aussi
mais parce que aussi on le fait pas forcément dans une salle d'attente, c'est dans un train et c'est un temps aussi marqué. On sait que on est tous à bord de ce train pour un temps défini et que on va pas se fâcher non plus avec les gens qui sont voisins.
Oui. Parce qu'il y a l'enfermement.
Parce qu'on ne veut pas rendre le trajet difficile. Donc on est quand même aussi le préjugé. Il peut tomber plus vite aussi parce qu'on se dit finalement.
Je vais vous choquer, Philippe, mais vous l'avez compris, on a aimé quand même. Paris-Briançon, le nouveau roman de Philippe Besson qui sort aujourd'hui.
Oui, absolument.
Voilà. Philippe Besson sort aujourd'hui, mais le livre aussi. Paris-Briançon, c'est publié chez Julia. On va continuer d'en parler jusqu'à midi et demi. Mais le problème, c'est que nous, on vous aime, Philippe Besson. C'est pas le cas de tout le monde.
Et
c'est
oui.
Regarde, t'as 10 minutes de retard.
Il y a rien qui va. Philippe Besson, je vous aime pas, mais franchement, c'est pas tant vous. C'est surtout cette date, quoi, le 3 janvier.
Ah oui, mais je comprends. Oui.
Non, ceci dit, vous avez vu avec les deux dernières années, je trouve qu'au réveillon du Nouvel An, on a été beaucoup plus humbles tous dans notre manière de nous dire bonne année. C'était plus allez et advienne que pourra. J'ai entendu personne cette année avoir l'audace de lancer des grands. C'est mon année. Dites, écoutez, restons en vie. Le reste c'est du bonus.
C'est
bref, c'est bon. Noël s'est passé. On a mangé. On a été déçus de nos cadeaux. Est-ce qu'on peut passer, s'il vous plaît, directement à la suite, genre l'été. Personne n'a besoin de cette salle d'attente minable de janvier à mars. Franchement, c'est du gâchis de moi, ni plus ni moins. Je sais pas, peut-être qu'on peut annuler. Est-ce qu'on va vraiment manquer aux gens si on arrête maintenant? Franchement. Non, bon, Guillermo, un peu, on a besoin de lui. Enfin, franchement, il est jeune, il est beau, il est drôle. Et quand il s'exprime, oh, il fait ce qu'il peut. D'ailleurs, c'est fou d'être à la fois la caution physique et le quota handicap d'une émission. C'est hyper fort, ce double emploi. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, c'est une évidence, les gens m'adorent. Je reçois un nombre, Philippe, de messages incalculables. J'en franchement, c'est indécent. Grâce à vos chroniques, je désire à nouveau ma femme. Votre papier sur Bruno Solo a réveillé mon fils du coma. C'est incroyable. Mais vous, Nagui, vous êtes en activité depuis la fin des années 70. Est-ce que, je sais pas, je demande, c'est pas le moment de se faire un petit peu désirer. Le public, c'est comme un couple. Parfois, faut se manquer un petit peu. On annule le tronçon janvier-mars. On se retrouve avec Philippe début avril. Non? Bon.
C'est un choix.
Bon, Philippe Besson, on y va. Tant pis, je vous aime pas. Aujourd'hui, vous venez nous parler de Paris-Briançon, un roman qui raconte une nuit à bord d'un train couchette qui relie Paris à Briançon. Il n'y avait pas de piège. L'histoire met en scène une dizaine de passagers qui se connaissent pas et qui vont, huis clos oblige, nouer un lien durant ce trajet. C'est une histoire de destin qui se croise comme je les adore et comme il n'en existe quasiment plus. C'est devenu impossible d'entamer une conversation avec un inconnu pendant un voyage en train ou en avion. Soit il lit, soit il écoute de la musique, soit il dort, soit il fait une clé de bras au contrôleur. Moi, parfois, quand quelqu'un a l'air sympa à côté de moi sur un long courrier, j'ai toujours cette envie terrible d'entamer une conversation et à la fois la peur que la personne ait envie de la continuer pendant 8 heures. C'est hyper risqué quand même de commencer à être sympa avant 10 heures d'avion. J'ai fait l'expérience une fois il y a quelques années. La personne flippe un peu de l'avion à côté de moi, comprend pas comment placer le masque à oxygène. Toi, gentil, tu la rassures en lui disant que de toute façon, si on se crache au-dessus de l'Atlantique, le masque à oxygène, c'est du détail. Après, tu papotes sur l'épaisseur du jus de tomate. La personne te dit que c'est meilleur avec du sel de céleri. Tu la rassures en lui disant que si on se crache au-dessus de l'Atlantique, le sel de céleri, c'est du détail. Vraiment, t'as envie qu'elle se détende. T'es sympa. Puis là, t'as mis la pièce de trop. T'as enclenché un monstre qui va te tenir la jambe pendant 9 heures et te tenir la jambe littéralement à l'atterrissage parce que ça secoue un peu. Du coup, maintenant, pour ne plus jamais prendre le risque, on met un grand mur de glace entre nous et les autres, un mur de glace sans fil de la marque Apple, pour envoyer le signal « si tu me parles, mon gars ». C'est pour me dire qu'il y a des zombies à l'arrière du train qui remontent dangereusement vers notre voiture avec une petite dalle, sinon je n'existe pas. Bref, maintenant, des gens qui se causent dans le train, ça devient une œuvre de fiction. Quand c'est bien fait, c'est signé Philippe Besson, ça vous embarque, destination Briançon. Et à demain pour d'autres rimes en « on » dans cette émission présentée par une bande de gros foufous.
Merci. Mais c'est vrai que ce que vient de dire Morgane Cadignan sur vous parlez de l'expression, c'est réarmer le désir.
Oui,
c'est, oui. C'est-à-dire que justement se dire dans un couple, est-ce que alors, peut-être merci pour ma carrière personnelle, mais prendre du recul, s'arrêter ou alors se séparer pour revivre les premiers émois et les premiers désirs.
Oui, c'est-à-dire que tout d'un coup...
C'est l'un des personnages, en tout cas,
oui,
qui dit.
Ce moment-là, en tout cas, dans le train, c'est celui où on se pose, mine de rien, sans s'en rendre compte, quelques petites questions existentielles, ouais, en fait. Parce que, comme le disait Leïla, on est renvoyé à une forme de solitude, de huis clos, d'enfermement. On se sent protégé dans cette bulle d'obscurité. On voit des inconnus à qui on peut se confier plus facilement. Et tout d'un coup, on va révéler ce qui nous transperce. Et en fait, on se rend compte que chacun est porté par quelques mots qui sont les mots de l'époque. Quelqu'un est malade, quelqu'un subit des violences et quelqu'un se pose des questions sur son couple, sur ce qui doit être par rapport à l'autre, etc.
Et ils sont multiples. C'est-à-dire, oui, que ce que vous venez de dire concerne, je pense, et à la maladie et aux violences faites aux femmes. C'est dans la même famille que ça se passe.
Ouais. Ça m'intéressait de prendre des gens tout à fait ordinaires. C'est des gens très simples. Moi, je voulais écrire à hauteur d'homme, quoi. Voilà. C'est pas des gens extraordinaires. Ils ont pas des destins extraordinaires.
Et de ne pas les stéréotyper.
Voilà. Mais simplement, ils portent avec eux une espèce de petite faille. Et dans ce train, les cuirasses tombent et on révèle ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, oui, c'est l'époque, ce que l'époque nous fait subir parfois, ou ces épées de Damoclès qui pèsent sur nous, ou ces violences qu'on subit, ou ces choses comme ça. Et ça m'intéresse de le raconter. Alors, il faut le raconter de manière, j'espère que c'est comme ça que je l'ai fait, de manière pas appuyée. Moi, je fais pas des essais, je fais pas des démonstrations, je suis pas militant de rien du tout. Mais ça m'intéressait de dire, voilà, par exemple, cette femme, si vous la prenez, elle a l'air d'aller bien, le côté, ouais, working girl, elle est active, elle a ses deux enfants, on la voit courir dans des halls de gare, etc., avec les deux enfants. Et puis tout d'un coup, quand vous grattez un peu, on se rend compte qu'il y a une fragilité, une vulnérabilité.
Ce qui est le cas de tous les êtres humains.
Mais bien sûr. Et donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est juste de faire baisser un peu la garde, d'aller au-delà des apparences et de faire que tout d'un coup, ces êtres-là se révèlent dans leur nudité, dans leur fragilité.
Parce que le train, en fait, c'est comme une scène de théâtre, en fait, ouais, dans ce côté révélateur. Je connais votre amour pour Chérault. Forcément, on, ouais, pense à ceux qui m'aiment prendront le train. Ouais. Le train, c'est aussi c'est vraiment un objet littéraire hyper important et cinématographique parce que on voit bien, d'ailleurs, le premier film, c'est quoi? C'est l'arrivée du train à La Ciotat.
Absolument.
Donc il y a quand même quelque chose dans l'imaginaire.
Oui, la bête humaine, il y en a des trains qui ont marqué l'histoire.
Voilà, il y a ce voyage physique, mais ce voyage aussi immobile au sein du train. Il y a une véritable tradition là-dessus. Et puis il y a cette envie aussi de mettre des scènes en boîte comme ça. On voit les départs du train, la foule sur le quai, les gens qui s'éloignent, le temps de la rêverie, le temps de la réflexion. Pourquoi le train, vous prenez beaucoup le train, vous écrivez beaucoup dans le train ou pas?
Moi, je prends énormément le train, ouais, et j'écris beaucoup dans le train, parce que j'arrive justement à faire une espèce de bulle là aussi dans le train, à m'isoler et à faire ça, mais aussi à faire des rencontres, parce que ce que vous disiez tout à l'heure, c'est très intéressant, c'est qu'au fond, on a perdu l'habitude de parler à des étrangers. C'est-à-dire qu'on est sur notre téléphone, ouais, ou sur notre portable, ou sur je sais pas quoi, et on veut surtout que l'autre n'existe pas. Alors que précisément, il y a 20 ans, 30 ans, quand on prenait le train, on était content de croiser un militaire qui revenait en garnison, ou je sais pas quoi, et il se passait des trucs.
On draguait très fort. Très sexy.
Il se passait des choses, oui, qui n'étaient pas que romantiques, parfois, voilà, un peu plus sexuelles que ça. Bon. Et moi, ça m'intéresse l'idée que, voilà, vous rapprochez des gens.
Oui, mais je te raconterai là.
Et c'est pour ça que j'aime bien les trains aussi. Voilà.
Mais non, c'est pas que pour les sandwichs triangles, en fait.
Non, c'est pas ça. Il peut y avoir une aventure dans un train, notamment un train de nuit, en sachant pertinemment qu'une fois qu'on arrivera à la destination, c'est fini, on passe
à autre chose.
On ne saura plus qui est
donc
qui.
Donc c'est une parenthèse enchantée, ça, et la parenthèse se referme, on passe à autre chose.
On n'a pas pris les mêmes trains, mais on a visiblement beaucoup
d'expérience. Vous avez pris les mêmes trains.
Ouais. C'était toi, Philippe.
Ça y est, je me souviens maintenant.
Et cette phrase incroyable, ça c'est une confession, quand vous dites que l'ennui demeure la meilleure des inspirations pour un écrivain. L'ennui,
oui, en tout cas,
c'est de là que naissent vos idées aussi.
Non, mais l'idée, il faut se mettre dans une forme de solitude, d'abandon,
qui amène à la rêverie.
Oui, de distance aux choses, de viduité, de vacuité.
C'est une formation pour écrire.
Oui, pour essayer de laisser advenir les histoires. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on est toujours préoccupé par autre chose, si on pense à 10 milliards de trucs, le livre ne peut pas arriver. Le livre, il arrive dans le silence et dans, oui, la vacuité, parce que là, tout d'un coup, on se met en situation d'être poreux, de prendre les choses. Et quand ça arrive, c'est un bonheur, parce que tout d'un coup, ça remplace l'ennui et puis on écrit.
Est-ce que le défi de ne pas raconter le dernier quart du livre a été...
C'est ça, il faut pas dire pour comment ça se termine. C'est ça, et je vous remercie de ne pas l'avoir dit parce que
on a parlé des trois quarts.
Oui, c'est ça, absolument.
Du livre et arrive le dernier quart qui
explique pourquoi certains n'arriveront pas à destination.
Qui est un choc.
Le jambon n'était pas frais.
Mauvais triangle.
Et justement, c'est important de laisser le lecteur découvrir ce qui va se passer parce que il y a, c'est vrai, cet attachement que l'on peut avoir et de se dire que forcément la vie ne sera pas la même une fois que le train arrivera à Briançon. Il va se passer quelque chose qui va forcément transformer les vies de tout le monde, parce que même si on n'est pas directement concerné par un crime, un attentat, une intoxication alimentaire ou n'importe quoi, on se dit pourquoi pas moi aussi.
Oui,
à ce côté, pourquoi c'est arrivé à l'autre et pas à moi, alors qu'on était dans le même train, au même moment, la même nuit. Paris-Briançon, le nouveau roman de Philippe Besson. Voici le nouveau Guillaume.
C'est pas vrai.
Tellement 2022.
L'homme qui se caresse.
Ça va quoi?
Très bien.
Et ça y est.
Quoi?
J'ai eu le Covid.
Super. Mais non. Ah ouais. Bravo.
C'est vrai.
Comme tout le monde va me dire à Paris dans ce moment, il y a 9 personnes qui n'ont pas le Covid.
On l'a eu avant toi.
Dont 2 dans ce studio. Statistiquement, c'est obligé. Parmi vous, il n'y en a qu'un cube. Hein, je vous le dis franchement. Il y a une étude qui dit que le popper, c'est plus efficace que l'hydroxychloroquine. Donc Leïla, elle est safe. En plus, elle est le coro des coros. Mais les autres, je dirais Morgane, elle revient de vacances. Daniel pourra arrondir ses fins de mois. Il est clown dans un hôpital. Et Nagui, il a fait le 31 décembre chez Patrick Sébastien, tu vois, pour sa fameuse soirée. Et si on disait que ton partenaire, c'était aussi le mien? C'est sûr que vous êtes rongé de l'intérieur. Mais moi, ça va. Moi, je suis immunisé. Je sais pas pour combien de temps, honnêtement. Il y a des études qui disent 6 mois et des études qui disent 6 secondes. On sait plus trop avec les rappels des vaccins. Il y a trop de combinaisons possibles. Genre là, j'ai eu 2 doses, 1 Covid. Il y a 2 doses, 1 Covid. Je crois que c'est mieux que 1 dose, pas de Covid, mais moins bien que 3 doses, cas contact. Bientôt, pour savoir où t'en es niveau immunité, il faudra demander à Cédric Villani. Genre, en mode, tu peux me faire une petite équation 730 inconnus et changer de nœud. Vraiment. C'est chaud, je crois qu'en l'état actuel, la science a plus de certitudes sur l'Yeti. Vraiment. C'est pas la maladie la moins claire du monde, le Covid. Je veux dire, on critique beaucoup Ebola et tout. Mais bon, Ebola, jamais tu dis, ah ben moi je l'ai eu, mais alors asymptomatique. Vraiment, c'est fou parce que, en même temps, mon cousin, qui lui est Stewa, vraiment, avec Ebola, tu peux pas AJ+2, tu t'auto-testes, AJ+4, tu fais un PCR si t'es blond vénitien, AJ+11. Le Covid, c'est un bail d'ingénieur, quoi, franchement. Et ceci dit, je suis pas mécontent de l'avoir eu finalement, parce qu'au début, J'étais trop fier de passer entre deux couches. J'étais là, non, moi je fais hyper gaffe! Parce que je parle à 30 mètres des gens avec mon matériel apicole. Vous vous rappelez comment j'étais au début? J'ai quand même vécu 7 mois dans un thermomix. Hein. Vraiment, tu vois, nickel, j'ai appris à faire des potages. Aujourd'hui, tu me dis la clé, c'est la crème, je te dis pas si vite. Vraiment, on parle potage, on parle velouté. Mais c'est vrai, j'étais tellement stressé. J'étais stressé au début de la pandémie, j'avais un soupçon, début de gorge qui gratte. Direct, j'étais au téléphone, quoi. Pas avec mon médecin, avec mon notaire. Vraiment, directement. Chez lui, il y a une étagère Billy avec 60 versions de mon testament. 2 fois, j'ai légué mon robot aspirateur, Azaz. Lui servir plus à elle, mais c'est vrai que sauf que voilà, au fil du temps, tous mes proches l'ont chopé. Le Covid, ils se parlaient entre eux. J'ai entendu, alors moi, pour récupérer l'odorat, ce qui m'a sauvé, c'est vraiment les huiles essentielles de canard. Vraiment, c'était une confrérie, quoi. J'étais exclu du coup. Progressivement, j'ai commencé à avoir honte de jamais avoir eu le Covid, quoi. Tu vois, on me faisait, toi, tu l'as eu le Covid? J'étais là, ouais, carrément, en Asie. Au début, variant hyper rare, j'ai perdu Louis et mes clés. Vraiment, je ressentais ce que je ressentais à 18 ans, tu vois, quand littéralement tout le monde autour de moi avait déjà baisé, et que moi, pour avoir une sexualité, j'étais obligé d'aller sur Emul. Vraiment,
oui, Emul.
Tu téléchargeais une vidéo porno, le temps que ça charge, ton sperme, c'était du placo. J'en ai isolé les salles de bain. C'est vrai que... Enfin, bref. Quand j'ai vu que j'étais positif, j'étais soulagé, j'étais là, yeah, I'm in. Curieusement, j'étais pas inquiet du tout, genre j'ai été malade, mais la maladie que j'ai eu, franchement, tu me ferais un testing à l'aveugle en me disant dans la boîte A c'est le Covid, dans la boîte B c'est un rhume. Honnêtement, je peux pas te dire qui est qui, quoi. C'est vrai, j'ai fait le Covid doublement vacciné, c'est de la triche, quoi. C'est un peu comme tu vas à Koh-Lanta mais t'emmènes tes dinosaures. Je sais que c'est un championnat du monde des analogies et que c'est là, peut-être je passe pas les qualifs. Enfin, je comprends les non vaccinés. Les non vaccinés, ils se disent, moi si je le chope, je veux la full expérience avec les poumons qui te font surprise. Et si on arrête de fonctionner, je déconne. Et imagine quand même. C'est vrai que ça met un suspense en plus, quoi, sans le vaccin. Moi, je suis mi-vieux, mi-jeune, avec double dose, j'ai perdu l'odorat 1 jour et demi, quoi. Franchement, à ce propos, la nature est mal faite. Perdre l'odorat, ça devrait être un symptôme de la gastro, non? C'est plus utile, quoi. Je sais pas. Je sens plus rien. Yes! Mettez-moi une semaine en plus. Par contre,
C'était mi-décembre. Je sais pas si j'ai eu le Delta ou l'Omicron. Me connaissant, c'est Delta. Moi, j'ai toujours les trucs quand la mode est passée, quoi. J'avais eu ça avec le Stan Smith. Vraiment, quand ça a commencé à être démodé, je me dis, j'achète 3 paires. C'est pareil, quoi. Enfin, bref, j'espère que ça a force de se répandre et d'être moins grave. Omicron, ça va finir par rendre le truc bénin, quoi. J'ai lu un article qui disait qu'une soirée avait contaminé 21 personnes sur 33 qui étaient triplement vaccinées aux îles Féroé, quoi. Vous savez, qu'est-ce que ça nous dit? Bah, qu'il n'y a pas grand monde aux îles Féroé. Parce qu'une soirée à 33, ça s'appelle. Et si on disait que ton partenaire, c'était aussi le mien, hein, Nagui?
Guillaume,
non,
au théâtre de la Renaissance.
Renaissance, absolument.
Renaissance. Oui, théâtre de la Renaissance.
Mais non, je ne savais pas, il me l'a pas dit.
21h, ça commence demain?
De mercredi à samedi.
Ouais. C'est complet, de mercredi à samedi, c'est complet. Bon, on ira quand même.
On ne sait jamais.
Oui,
on ira à ce moment-là.
Vous êtes copains des soirées.
J'ai dit que votre roman sorti aujourd'hui, c'est faux. Il sort le 6 janvier. Vous me laissez dire.
Enfin, on le trouve à partir d'aujourd'hui ou demain dans les librairies.
Déjà
mais logiquement, c'est le 6 janvier, oui.
Okay.
Mais il est déjà livré dans les librairies.
Il est pas vendu entre temps. C'est bon, il faut y aller 2 jours parce qu'il est donné.
Il est donné maintenant, mais
c'est
vendu.
Ça, et vendu après. Dépêchez-vous.
C'est le happy hour des
libraires.
Comment vous est venue cette idée? C'était justement d'avoir cette galerie de portraits, de dire comment raconter 12 vies totalement différentes qui se retrouvent à la croisée de ces chemins avec ces circonstances, avec ce jeu de hasard. C'est ça le point de départ?
En fait, ça part d'abord d'un truc d'actualité, c'est quand j'apprends qu'on rouvre des lignes de train de nuit.
D'accord.
C'était il y a un an de ça, un peu plus, et ça me rappelle mes propres voyages, et je me dis, ah, c'était bien les trains de nuit, donc je commence à écrire quelque chose là-dessus, puis, mais rien de particulier. Mais en tout cas, ça, c'était très évocateur pour moi. Et après, il y a une chanson, c'est curieux, parce qu'en même temps, ça tombe bien qu'on est ici, mais, Raphaël chante Le train du soir, et je vois chanter avec Pomme Le train du soir. Après, il y a d'ailleurs un clip qui est fait avec Mélanie Thierry, ça. Et je me dis, il y a quelque chose à faire autour de ça. C'est-à-dire qu'au fond, cette idée du huis clos et de l'endroit où on va tous être réunis, on peut faire quelque chose. Et puis, depuis longtemps, j'avais aussi envie d'écrire quelque chose autour des paysages et de la géographie. Et je me suis dit, je vais raconter aussi, parce que c'est important pour moi, cette France qu'on ne voit pas, cette espèce de France des contournements. Et dans le train de nuit, vous évitez toutes les grandes villes, vous passez au milieu des plaines, des champs, vous voyez les pylônes électriques.
Oui, mais on en voit moins.
On en voit beaucoup moins, mais on le devine tapis dans l'obscurité. Vrai, et surtout, on sait que ça va lentement, parce que précisément, on prend des chemins de traverse. Et à la fin, surtout, on monte, voilà, parce que c'est
dans les Alpes.
Dans les Alpes. Mmh. Et ça m'intéressait aussi. Et donc, cette idée-là fait qu'après, je me suis dit, bah, qui sont ces gens que je vais mettre dans le train? Et à partir de là, bah, vous faites votre miel. C'est tout d'un coup, vous essayez d'inventer 10 personnages.
C'est ça.
Et ça, c'est le bonheur absolu. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous dites, je vais donner la vie à 10 personnes. Je savais que ça allait être 10. Je fais ce que je veux. Donc là, vous devenez Dieu. C'est le bonheur de l'écriture. C'est que tout d'un coup, vous dites, c'est qui les 10 que je mets dans le train?
Ouais. Voilà. Et il y a quand même des sentences que vous assénez dans le livre. Le fait, par exemple, de ne pas pardonner aux morts. Cette phrase est d'une violence inouïe, surtout quand elle est dite par un fils à propos de sa propre mère.
Oui.
Mais
oui, c'est très violent. Parce que effectivement, le médecin retourne dans les Alpes parce qu'il doit débarrasser
liquider
la maison de sa mère qui est morte. Et donc, voilà, il faut se débarrasser de ce qu'il y a dans la maison avant de la vendre. Donc, il a un rendez-vous un peu étonnant avec sa propre jeunesse, voilà, et ses propres souvenirs. Et il se trouve que c'est un fils qui a été en rupture avec ses parents parce que ses parents n'ont pas accepté qui il était.
Il vient de rompre, il est encore en rupture.
Absolument.
Aussi,
il a vécu une histoire et l'histoire vient de se terminer. Donc, c'est quelqu'un qui est entièrement en rupture, voilà. Et c'est vrai que la tradition, c'est de dire, bon, bah, la mort pardonne tout. C'est-à-dire qu'au fond, ça efface les fautes. Et on se dit, bah, maintenant, on a le droit de ne garder que les bons souvenirs. Et en fait, je me suis dit, on a aussi le droit d'être rancunier. On a le droit de ne jamais pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Et c'est le cas d'Alexis. C'est-à-dire que lui, il se dit, on m'a fait du mal et j'oublie rien. Je suis le méchant dans l'histoire, peut-être, mais moi, j'oublie rien. Et donc, j'aimais cette idée qui va à contre-courant de ce qu'on
ça
raconte.
Ça vous a fait du bien d'écrire tout ça?
Non, mais on n'est pas obligé de pardonner à ceux qui nous ont offensés, en fait. C'est très chrétien et on n'est pas
très
forcément obligé de l'aide.
Voilà, c'est ça. Et puis, la politique est présente aussi. Il y a tout un mouvement insoumis à bord de ce train. Mais vous dites aussi, la planète est foutue, les ouragans, les inondations.
Mais oui, parce que ça m'intéressait de raconter. Il y a une bande de jeunes dans le train.
Le monde est fou, on décapite des profs.
C'est ça. Ils sont 5 et on se dit, ils sont insouciants, on leur prête un appart dans les Alpes, ils y vont, etc. Et en même temps, c'est des gens qui marchent sur un volcan. Parce que l'idée, c'est que l'avenir qu'on leur prépare est quand même absolument épouvantable. insupportable, la planète suffoque, il y a des attentats terroristes partout, on décapite effectivement des profs, et ils sont là, ils essaient de pas y penser. C'est-à-dire que l'idée, c'est de se dire, j'essaie de me mettre en séparation avec ce monde violent et qui court à sa perte, et j'aimais cette idée-là. Et en même temps, c'est une génération dont on dit toujours qu'elle est indifférente à ce qui arrive. Et donc, je voulais qu'au milieu d'eux, il y en ait un qui soit un pur militant, un type qui croit au truc, qui croit au combat encore, au combat idéologique, au combat politique.
C'est Enzo, c'est ça?
Absolument. Lui, ouais. Il se dit, allez, il y a encore des trucs à sauver, des combats à mener. Et ça me plaisait parce que c'est là aussi inattendu.
Et il rejoint Catherine, la retraitée. Voilà. C'est-à-dire qu'il se dit, ah, je suis quand même rassuré, il y a des jeunes qui ouais. continuent à se passer le flambeau du combat, et le combat.
Catherine, c'est drôle parce que c'est vraiment une personne, un personnage inspiré du réel, parce que dans une autre vie, il y a très 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 longtemps.
Au BHV
absolument. Bah j'ai travaillé au BHV pendant 5 ans, et de 89 à 94.
Et au rayon bricolage?
Non, mais je m'occupais du droit social et des ressources humaines. J'étais voilà, j'étais le responsable des ressources humaines du rayon bricolage, notamment du département bricolage, qui était au sous-sol.
Et super rayon.
C'était une maison historique, hein, c'est un vieux grand magasin dans laquelle il y avait donc des délégués syndicaux assez costauds, voilà. Ouais. Et il y avait une femme qui s'appelait Yvette Gibelin, donc si elle est toujours de
ce monde,
je la salue, voilà. Elle était en lutte tout le temps, mais elle avait quelque chose de très hyper sincère chez elle. Et vraiment, elle défendait son truc. Et elle était hyper touchante. Elle me plaisait beaucoup. Et c'est vrai que quand j'ai écrit le personnage de Catherine, c'était vraiment en souvenir d'elle et de cette espèce de volonté comme ça de porter un flambeau et de dire il y a des trucs. On lâche rien. Elle me plaisait justement pour ça.
Paris-Briançon, nouveau roman de Philippe Besson. La musique est présente. Vous l'avez compris, avec en exergue.
La nuit, je mens. Je prends des trains à travers la plaine.
Et puis la nuit, on passe dans le Vercors.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique.
Et vous avez fait une référence tout à l'heure à Raphaël avec ce titre sur les trains.
File vers toi.
Toi, tu dis un truc.
Quel talent.
Ouais.
Non, quel talent.
On est très 2022. Le train du soir de Raphaël et la musique dans votre vie, Philippe Besson. Je ne sais pas d'ailleurs si vous écoutez de la musique en travaillant. Ça tombe bien, on va partir dans l'année 79 avec Alain Chamfort. Alors là, on n'est plus dans le train, on est plutôt dans un bateau, mais ça finit mal aussi.
Ça finit mal aussi. Non, mais c'est drôle parce que c'est une chanson. Quand moi je l'ai écoutée, comme tout le monde, je trouvais que c'était joli, dansant, tout ça, etc. Et puis après, quand vous écoutez un peu plus les paroles, c'est une tragédie, bien sûr. Et donc, j'aime bien cette idée qu'on vous fait un truc un peu sucré de pop légère, et puis que derrière, ça raconte quand même une tragédie, parce qu'on le sait, c'est Alain Colas qui reviendra jamais, voilà. Et donc, j'aime beaucoup cette chanson.
Au début, Gainsbourg avait écrit des paroles sur la Californie.
C'est ça,
California.
Oui. California. Et Chamfort a dit non, oublie.
Non, oui. Il trouvait les paroles ridicule. Disant, c'est gnangnan, ils sont même fâchés.
Ouais.
Et sur un coin de piano comme ça, il a pondu ce texte à toute vitesse et ça donnait un.
Oui, mais c'est
un
incroyable, ces chansons qui sont comme ça extrêmement légères et tout d'un coup ça raconte. On voyait ça avec, je sais pas, Marcia Baila, Berita Mitsouko, etc. Il y avait des choses comme ça.
Non, mais tout à l'heure, on a parlé du petit train d'Erita Mitsouko.
Berita, oui, absolument.
Train de la mort, hein, c'est quand
et
même
on danse pourtant.
Les trains de la déportation.
Et on est en 79, vous avez une dizaine d'années, 12 ans même, il y a un coup de foudre pour le cinéma.
Ouais.
Puisque vous déménagez, donc vous arrivez à proximité d'un cinéma et vous y passez vraiment clairement une grande partie de votre temps.
Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai grandi dans un petit village de 160 habitants, très à l'écart du monde, avec juste des vignes en face de moi. J'avais pas le droit de regarder la télévision, donc le monde n'existait pas du tout. Bon, et puis en 79, on déménage à Barbezieux, donc la grande ville. Hein,
ouais, c'est la mégalopole.
5000 habitants, donc là, c'est
la folie.
Las Vegas. Ouais. Las Vegas, du jour au lendemain. Bon,
la
très
ville
bien.
Qui ne dort pas, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelle.
Non, je ne dors jamais. c'est d'ailleurs un point. Je pense que tout le monde connaît Barbezieux.
En Charente, il y a Barbezieux.
Ici, personne n'a
jamais
dormi,
eu budget encore pour y aller, mais peut-être.
Les nuits de Guillermo à Barbezieux, on ne peut pas en parler, mais c'est
chose,
merci de ne pas en parler.
À la boule d'or,
il a laissé les souvenirs.
À la boule d'or, c'est ton surnom.
Il y a une salle de spectacle.
Il y a une salle de cinéma qui s'appelle Le Club, et moi, je suis allé dans cette salle de cinéma, et je m'assois, et je me rends compte qu'il y a des histoires sur l'écran, et que ça me parle. Et donc, je suis devenu un fou de cinéma, oui, en allant au club à Barbezieux. Il y avait 4 films par semaine, j'allais parler 4. Franchement, j'ai vu des daubes. Hein,
et vous rêviez de faire quoi à l'époque? Quand on a 12 ans, qu'on est maintenant à la ville?
Je rêvais de pas grand-chose.
Être acteur?
Comment ?
Être acteur ?
Non, ah, pas du tout. Alors ça, j'en ai jamais rêvé, jamais. Non, je pense que tout bêtement, à ce moment-là, je devais vouloir être prof ou un truc comme ça. Comme j'étais fils d'instit, j'imagine que ça devait être ça. Comme j'étais bon élève, ça devait être typiquement genre de rêve.
Ouais. Ça tombe bien, parce qu'en 84, vous écoutiez... Guillermo pense que cette chanson concerne évidemment un parachutiste, puisque ça s'appelle Envole-moi, mais pas du tout, c'est un prof.
Je joue le teubé de ça. On me le dit alors. Mais il n'y a pas de problème.
C'est clair, c'est votre rôle, c'est ça.
C'est deux débiles. 2022, je suis le souffre-douleur.
L'idiot du village.
Au moins, les choses sont claires.
Elles sont dites. Je demande juste une augmentation par rapport à ça.
On a déjà vu ce que tu gagnes.
Non, mais c'est vrai que cette chanson parle de la force de l'éducation. Absolument. Et de la lecture. C'est pour ça que vous l'avez choisi ou c'est simplement
pour
le souvenir
ça,
de Goldman?
Parce que j'étais totalement fan de Goldman. J'avais des posters dans la chambre, etc. Et j'ai été vraiment absolument fanatique de Goldman. Et je l'ai raconté des années après, mais j'ai fini par lui écrire 30 ans plus tard, parce que je parlais de lui dans Arrête avec tes mensonges, et il m'a répondu. Et un jour, donc, j'ai reçu une lettre de Jean-Jacques Goldman, 30 ans après mes années des mois, et c'était un vrai bouleversement. J'ai une passion pour lui, et c'était, voilà. Et alors qu'on se moquait de moi, parce qu'évidemment, on se disait c'est un truc, c'est des chansons quand même, c'est de la variété.
Non, elles sont super intelligentes.
Et c'est toujours très intelligent, voilà.
On est en 84, Philippe, et vous débarquez à Bordeaux, ouais. Avec toujours cette idée d'assurer vos arrières, mais quand même de profiter de ce qui se passe, de la fête.
Oui. Bah, je fais une prépa HEC, donc c'est quand même, c'est un peu, voilà, bon. Donc ça me prépare à des grandes études, hein. C'est pas le truc, c'est genre, je vais devenir une bête à concours, je vais bosser tout le temps, etc. Et puis vous avez un petit moment entre minuit et 6 heures du matin, vous pouvez quitter l'internat, et vous pouvez un peu aller dans les rues de Bordeaux et dans les fêtes, etc. Et donc je fais ça. Je découvre une espèce de vie nouvelle, voilà, je m'amuse un peu à ce moment-là.
Tarif jour, tarif nuit, quoi.
Oui, ouais. Il y a tarif jour et tarif nuit. C'est un peu compliqué, mais c'est sans doute un peu pour ça que j'ai raté quelques examens, d'ailleurs, mais en tout cas, c'était un beau moment de vie. C'est tout d'un coup, je me suis dit, on a le droit d'avoir une jeunesse et c'est maintenant.
Vous êtes nostalgique de ça ?
Ouais, très. Ouais. C'est affreux parce que la nostalgie est arrivée très vite dans ma vie. Mmh. En fait, à 20 ans, j'étais déjà nostalgique, donc c'est affreux. Donc vous imaginez maintenant.
Nostalgique de vos 19 ans ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, très vite dans ma vie, je me suis dit, c'est trop tard. Ouais. Très vite, je me suis dit, c'est fini, c'est passé, ça reviendra plus. J'ai eu très vite cette idée que ce que j'étais en train de vivre, j'allais le perdre et que c'était irrémédiable,
c'est-à-dire
que c'était irrévocable.
Au moment où vous vivez un instant qui est censé être un instant présent,
oui, je pense à sa perte.
Vous le voyez déjà passer.
Fini. C'est horrible. Je suis dans une logique à me dire, oui, ça ne reviendra pas. Ce moment-là unique, c'est fini. C'est terminé.
Ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand vous faites cette émission. C'est-à-dire là, vous dites au moins.
Voilà, mais ça sera heureusement après, ça sera derrière nous. Mais c'est terrible de vivre comme ça parce que, au fond, vous. Alors, ça donne du prix aux instants, ouais,
c'est
voilà. Qu'on se dit au
c'est
fond.
C'est ce que j'allais dire, oui.
Mais après, vous avez quand même une espèce de souffrance intrinsèque qui est liée à l'idée d'avoir perdu ce que vous avez.
Et là, rien d'en parler, vous avez du chagrin.
Non, mais ça, c'est pas confortable de vivre avec ça, en fait, bizarrement. C'est pas la chose la plus simple. De penser qu'effectivement, les beaux jours, c'était avant.
Paris-Briançon est le nouveau roman de Philippe Besson. C'est un trajet en train, justement. Dominique Kroskopf est
le contrôleur.
Non, du tout. Il est rédacteur en chef de voyagermagazine.fr et auteur des plus beaux trains du monde qui vient de sortir aux éditions Villot. Merci d'être à ce micro. Dominique, justement, parmi les trains les plus célèbres, on a évoqué l'Orient Express, il y a le Transsibérien.
Oui, alors évidemment, ce sont les deux trains les plus mythiques. Ouais. Ce sont vraiment les trains fondateurs.
Qui existent toujours, d'ailleurs.
Oui, ils existent toujours, oui. Alors, le Transsibérien, en fait, c'est pas le nom d'un train, mais il faut bien savoir que c'est le nom d'une ligne.
D'accord.
Et chaque pays, finalement, peut faire, et chaque société de chemin de fer peut faire circuler son train. C'est pour ça que quand on prend un Transsibérien, si on part en voyage, on peut choisir un petit peu la classe luxe, la classe un petit peu plus populaire. Mais il y a des trains aussi très spécialisés, et j'en parle dans mon livre, c'est l'Iole, par exemple, et l'Iole Orient Express, qui est plutôt un train de luxe qui va faire escale. On va parler plutôt de croisière ferroviaire, et là on part pour 10 ou 14 jours avec des thèmes un peu différents. Alors on n'est pas dans le train.
Attendez, pardon, c'est-à-dire qu'on prend un train et le train marque des étapes.
Oui, tout à fait. C'est pas un train régulier.
et vous attend le temps de visiter la ville en question.
Une journée, tout à fait.
Carrément, ah, d'accord, ouais. Ok.
Bon, ce sont des produits qui sont composés pour une clientèle un peu internationale.
Mais alors, quel est le plus beau train du monde pour vous? Est-ce que c'est le fait de passer par des villes et des rendez-vous culturels absolument incroyables ou c'est ou, voilà, exactement, ouais. Ou des paysages bon. Avec des
oui, moi je suis plus dans le paysage. Je suis un amoureux des paysages et c'est vrai que découvrir par le train des paysages, des splendeurs naturelles, c'est autre chose. On est dans un huis clos, comme le disait tout à l'heure Philippe Besson. C'est vrai que c'est un train, c'est un huis clos, on y fait des rencontres. Et puis, on a toute la magie. Alors, sur ces trains de luxe, dans ces croisières ferroviaires, souvent, on a aussi une plateforme, ce qu'on appelle un wagon panoramique. C'est le cas aux États-Unis, dans les grands trains qui font la traversée des Rocheuses.
C'est généralement l'arrière du train, c'est ça qui sert de
terrasse.
Ouais,
c'est soit l'arrière du train, oui. Par exemple, sur le Rovos, en Afrique du Sud, c'est l'arrière du train. Aux États-Unis, on n'est plus sur des wagons dômes. Où on passe sa journée sur un dôme, que ce soit sur le transcanadien que sur le California Zephyr, enfin parce qu'il y a un train canadien et un train américain, mais disons que les parcours sont assez similaires. Mais c'est vrai que c'est...
On parle du retour des trains. Ouais. Alors, est-ce que ce retour vient de la volonté d'être écolo, c'est-à-dire de moins polluer qu'avec l'avion, et donc ça remet au goût du jour le train, ou est-ce que les trains de nuit reviennent
Les trains de nuit, c'est très particulier. Je crois que c'est un peu un prétexte. Il existe aujourd'hui deux lignes de trains de nuit, le Paris-Briançon, évidemment, un autre qui part vers l'Occitanie, puis on a relancé il n'y a pas très longtemps non plus le Paris-Nice. Mais moi, je suis plus dans mon ouvrage Les plus beaux trains du monde. Je présente davantage des trains, des croisières ferroviaires. On est plus dans ce style-là.
D'accord.
Mais alors pour répondre à votre question, le train de nuit, bon, je pense que ça correspond évidemment à un retour pour se donner peut-être une bonne conscience écologique, hein, parce que. Mais je pense qu'il y a aussi un côté, les gens ont envie de se réapproprier un peu le temps.
Prendre le temps.
Prendre le temps de voyager. Oui. Mais ça a toujours existé depuis les années 80, quand on a relancé un peu partout dans le monde plusieurs trains, mais sur des croisières. Oui. Donc c'est un peu différent d'une croisière ferroviaire. C'est un art de vivre à bord. Ce sont des cabines luxueuses, oui. C'est une gastronomie. C'est pas tout à fait la même chose. Cela dit, il y a un beau projet en France qui s'appelle Midnight Train et qui verra le jour en 2024. Et au départ de Paris, vous pourrez vous rendre à Barcelone, à Rome et dans plein de villes d'Europe. Et vous aurez en fait la chance d'avoir une chambre. Leur concept, ce sera une chambre.
D'accord.
Une chambre hôtel. Alors évidemment, on peut se dire, est-ce que c'est le retour à l'Orient Express quand on en parle avec les responsables?
Ça ressemble un peu, oui.
Non, c'est pas notre créneau.
En croisière ferroviaire, en tout cas.
Ils parlent plutôt d'hôtel.
D'accord.
D'hôtel sur un train.
Donc, Les plus beaux trains du monde, c'est aux éditions Vilo et sur voyagermagazine.fr, c'est croisière ferroviaire.
C'est un peu mon idée, oui, voilà, tout à fait, on retrouve une rubrique sur les croisières, tout à
merci
fait, ferroviaire.
Merci Dominique, ça donne envie en tout cas, ça donne envie. Le héros, tiens, le héros, il est là, c'est Daniel Morin, mais ouais, monsieur Daniel Morin. Quel héros en ce jour du 3 janvier.
Alors, chers amis, il aurait très bien pu être ce héros de rentrée, le Père Noël. Oui, ce brave Santa Claus, qui, une fois encore, a réussi sa mission. À savoir sa distribution de cadeaux à tous les enfants du monde, aux gentils comme aux petits merdeux, qui se sont comportés comme des chiens toute l'année, mais qui, n'ayant pas de casier judiciaire, ont, dans le doute, bénéficié de la distribution générale. Oui, ce bon Père Noël, qui aujourd'hui est encore au repos, soit dans une clinique tyrolienne où il se fait changer le sang, soit sur une plage des Caraïbes avec des rennes, où il fait le con dans les vagues en buvant des mojitos et en dansant la bachata. Bravo à toi Père Noël, oui bravo, mais pour autant ce n'est pas toi mon héros du jour. Non, c'était pas toi mon héros du jour, et là notre invité y est pour quelque chose, mon héros, c'est le train, et plus particulièrement le train de nuit. Pourquoi ? Eh bien parce que le train de nuit, c'est l'aventure, c'est l'audace, c'est le frisson. Frisson d'angoisse. Quelle angoisse quand dans la couchette voisine s'allonge mystérieusement un homme ou une femme qui, après avoir échangé un timide « bonsoir », ne dit plus rien. À quoi pense-t-il ? Est-ce un psychopathe qui attend que le sommeil m'agrippe pour me sauter dessus et me larder de coups de couteau ? Est-ce un malade du Covid passé entre les mailles du pass sanitaire qui, d'ici quelques minutes, va se mettre à me tousser dessus comme un Belge tuberculeux ? Le train de nuit, c'est aussi l'excitation, le frisson de l'interdit. Mais qui est cette créature qui, après s'être mise totalement nue, a fermé le loquet ? A-t-elle juste chaud ou bien compte-t-elle se précipiter sur moi pour étancher une soif irrépressible de luxure avec l'inconnu que je suis et qui lui garantit un moment de passion tamisé sans contrainte et surtout sans lendemain ? Si c'est le cas, j'espère que ça ne réveillera pas ses enfants qui dorment au-dessus. Le train de nuit, ça peut encore être le frisson de l'aventure avec 5 drogués qui déboulent. Ça n'était pas prévu, mais moi qui n'ai jamais pris de crack, c'est le moment d'essayer.
Oh, c'est fort, c'est chaud, c'est bon, allez. Un petit rail d'héroïne, histoire de pas mourir idiot. Je noie tout ça au popper sur les conseils d'une amie collègue. Et on a mon Guingamp.
Arrêtez.
Le train de nuit. Le train de nuit, mon héros. C'est aussi le plaisir d'être bercé par le bruit lancinant de cette glissade sans fin qui vous ramène à l'adolescence. Arrivé à Briançon, le train est penché, très penché. Ça sent les vacances, ça sent la neige, ça sent déjà la jambe plâtrée. Le train de nuit, ça n'en finit pas et c'est ça qui est bon. Et c'est pour ça que j'en appelle.
Oui, oh non. Oh,
c'est... Reste tranquille.
J'en appelle au ministre des Transports.
Ministre du Boulot. Barry.
Monsieur Djebari, cher Jean-Baptiste, JB mon amour, je sais que le retour en grâce du train de nuit, c'est un peu vous qui l'avez initié. Vous êtes ce champion qui avait décidé que dans cette course effrénée à la réduction, à la compression du temps, il fallait faire une pause. C'est bien, mais je vous demande d'aller un cran plus loin. Oui,
et tu en appelles.
Pour que chaque Français puisse au moins une fois dans sa vie connaître la sensation délicieuse, lente du voyage de nuit par le rail, je vous demande pour cette année de bien vouloir supprimer tous les trains de jour, tous les vols intérieurs et d'inviter la population à grimper dans une couchette, même en plein jour. Vive la France, vive la SNCF.
Merci, Daniel. Bonjour, Tanguy. De quoi parles-tu aujourd'hui?
Là, je vous souhaite pas bonne année. Je l'ai fait les deux années précédentes. On a vu ce que ça avait donné. Donc, bisous. Ah, bah non, on peut pas non plus. Donc, rien. Au revoir.
On en parlera tout à l'heure.
Voilà.
Ou pas. Original avec Néla Kadogoudadi, Morgane, Mignan, Guillermo, Guise, qui a pris rendez-vous avec Philippe Besson. Guy, Tanguy Pastiaro, Daniel Morin, ah, et notre invité Philippe Besson.
Le cœur de vierge.
Avec ce nouveau rendez-vous, ce concours de circonstances, ce hasard, ce jeu de dés avec lequel vous jouez sur le Paris-Briançon, dans ce train qui part de Paris de nuit pour mener dans les Alpes, certains pour des rêves, pour des vacances, pour régler des problèmes familiaux, pour fuir peut-être aussi le monde dans lequel ils vivent. Ils ont
profiter
tous,
de la retraite.
Ouais, ils ont tous une bonne raison d'y aller, même s'ils ne devaient pas forcément y aller ce jour-là, à ce moment-là. On ignore ce qui va se passer. Évidemment, eux ignorent leur trajet, à part aller à Briançon, mais leur destinée.
Ouais,
voilà.
Destinée, ouais.
Voilà. Le trajet décidé par cet assassin qui est Philippe Besson, parce que... Non, mais c'est vrai, vous êtes un assassin.
Bah, les romanciers,
on décide du sort de ces personnages, c'est beau, c'est... Oui, oui.
C'est du serial killer, les romanciers, quand même.
Bah forcément. Ouais. Mais moi, en plus, je savais, en commençant à écrire le livre, qui n'arriverait pas à destination. Et donc ça m'aide. Parce qu'en fait, c'est aussi un livre, c'est comme un trajet. Donc vous avez besoin de connaître la destination pour pouvoir y aller. Après, vous pouvez éventuellement prendre des chemins de traverse et vous pouvez être parfois surpris. Mais bizarrement, ce qui est assez curieux, c'est qu'à la fin, ça se termine toujours comme j'avais décidé. Je me souviens, un jour, j'avais fait un livre qui s'appelait Garçon d'Italie il y a très longtemps. Et...
Il est fou, ce mec.
Non, mais,
C'est vous qui écrivez, évidemment.
Oui, mais en fait, on essaie de se ménager des voies de sortie. Donc, par exemple, quand j'écrivais Le Garçon d'Italie, il y avait un type qui mourait dès le départ et on se disait, est-ce que c'est un accident, un suicide, un meurtre, etc. Moi, je savais exactement comment il allait mourir, mais j'avais écrit le livre de sorte que jusqu'au bout, je pouvais me ménager une sortie différente. Oui. Et ben, il est quand même mort comme j'avais décidé dès le départ. Donc, on n'échappe pas à ce qu'on a décidé, là, pour le coup, quand on écrit.
Je rappelle que vous êtes l'auteur, Philippe, donc ça ne m'étonne pas que...
Oui, mais il y a une...
Vous êtes nostalgique de l'époque où vous avez eu la mémoire.
Non, mais... Dans le livre, dans l'écriture, on se laisse surprendre. C'est-à-dire que c'est ça qui est très frappant.
On peut se laisser embarquer par un de ces personnages.
Oui. En fait, il y a des gens qui existent. Il y a des personnages qui se mettent à exister plus que d'autres. Il y a des gens qui sont plus incarnés que d'autres. Il y a des gens auxquels on s'attache davantage. Il y a des personnages que j'ai supprimés parfois dans certains livres parce qu'ils n'existaient pas véritablement.
Il y en a que vous n'aimez pas.
Alors non, je peux pas écrire en fait, je peux pas écrire sur les personnages que j'aime pas. Parce que quand même, je vais quand même passer avec eux 6, 8, 10 mois, donc vaut mieux être en bonne compagnie.
Ça peut motiver.
Ouais, mais non, j'ai besoin de les aimer, j'ai besoin de les comprendre, parce que je me mets à leur place quand même. C'est-à-dire que moi, mon travail, à chaque fois, c'est de me mettre dans la peau de chacun des personnages que je raconte.
Comme par exemple, le silence qui peut s'installer dans un compartiment, on ne sait pas si c'est de l'embarras ou de la complicité. J'adore cette formule.
Mais oui, mais c'est ça qui est beau, c'est que vous êtes avec quelqu'un, et vous savez pas si l'autre est gêné, etc. Et si on attend que ça se passe, ou s'il est en train de se nouer un lien.
C'est ça.
Et s'il se noue un lien, c'est merveilleux, parce que tout d'un coup, ce silence prend une toute autre signification, une toute autre densité. Moi, j'aime bien l'idée qu'à un moment, vous transformez l'embarras en complicité, la complicité en intimité, que vous comprenez
que vous pouvez aller plus loin
et
avec
ça,
quelqu'un.
Et ça, ça ne peut arriver que dans un train. C'est-à-dire, il faut du temps aussi pour que la situation...
Non,
peut-être
que
pas, mais en tout cas dans un train. Parce que dans un ascenseur, on peut avoir aussi cette espèce d'embarras. On n'a pas le temps de nouer une complicité en 6 étages.
Oui, là,
j'essaye tous les matins.
En 11h, on y arrive. En 11h, on se dit qu'on a le temps devant soi. Et donc, on peut fabriquer quelque chose, une histoire.
Tenter la gare Montparnasse, on a le temps de faire l'amour. La tour Montparnasse.
Et la tour, bon, d'accord.
47 étages.
Et la... Non, plus que ça.
Plus 53.
56 ou un truc comme ça.
Non, mais j'ai un problème avec la taille.
Et puis, il y a la confession. Et la confession, parce que c'est plus facile, vous le dites, de se confesser ou de se confier à quelqu'un que l'on ne connaît pas.
Oui.
On n'a pas de compte à lui rendre.
Voilà, on n'a pas de compte à lui rendre. Il nous connaît,
il y a
connaît
pas de jugement.
Il connaît pas notre histoire avant, il va pas nous juger et on sait que de toute façon, on le reverra pas. Donc, il y a une capacité à dire sa propre vérité.
Ce qui est paradoxal, parce que pourquoi se confier à quelqu'un que l'on ne connaît pas?
Mais parce que justement, on n'est plus retenu par l'impudeur, on n'est plus retenu par la timidité, on n'est pas retenu par l'embarras social qu'on éprouve à chaque fois. Tout d'un coup, on peut se libérer, on peut se dire, bon, j'y vais. Perdu pour perdu, je le dis.
Parce qu'au fond,
on a beaucoup de mal à verbaliser ses propres souffrances ou ses propres obsessions ou ses propres névroses parce que c'est pas une époque où faut les dire, faut plutôt garder pour soi, on va pas bon. Et là, tout d'un coup, on a besoin de lâcher un peu une prise. Et donc, ce lâcher prise, cet abandon à soi et aux autres, ça se produit là. Moi, je trouve que c'est le lieu pour le faire, oui.
C'est puisqu'on en est au stade de la confession, c'est très énervant de parler de votre livre sans raconter ce qui se passe à la fin.
Mais
j'ai promis, je tiendrai ma promesse. Philippe Besson signe le Paris Briançon. C'est gratuit jusqu'au 6 janvier et c'est en vente à partir du 6 janvier.
C'est Happy Hour,
chez Julliard. Voici Tanguy Passion.
Bon, premier bilan de l'année 2022.
Déjà
elle est nulle. Hein, aussi naze que 21, pire que 2020, pardon, mais 26 degrés à Biarritz, un 1er janvier. Ça sent la fin du monde. À part si vous êtes glacier et basque, ce genre de stade, ça fait froid dans le dos. Il n'y a plus que là qui fait froid d'ailleurs. Là et dans le regard de Pécresse. 2022, je te hais déjà. Va niquer ta mère 2011. Je sais pas quel temps de gestation pour les années, donc je tente au hasard. Regardez-nous, 2 ans plus tard, on est encore là à tchatcher dans des serviettes hygiéniques pour postillon. Avec Véran qui redit cette fois, ça pourrait être la dernière vague. Il a la vie d'un surfeur sous mescale dans Point Break. On s'en sortira jamais. En Israël, il y a 2 jours, ils ont détecté un cas de flurona, fusion de grippe et du Covid. Ils s'y mettent à deux. Avec Vita et Slimane, on avait déjà morflé. Là, bien sûr, ça fait moins mal. Mais quand même, les virus sont pris pour les Avengers. Là, je pense qu'ils sont en train de recruter la gastro. S'ils s'associent à Ebola, on est mal. Et malgré tout ça, j'ai reçu des SMS de bonne année. Alors, j'ai coupé les liens avec ceux qui me les ont envoyés, bien sûr. Les gens qui vivent dans le virtuel, merci. Ça commence comme ça, c'est fini dans le métavers de Roblox avec Paris Hilton. Quoi, bonne année? Mais vous rigolez? Moi, le 31 décembre, j'ai rien fait. J'ai regardé la télé comme tous les asociaux. Et ben, même là, ils n'y croyaient pas. C'était triste, mais triste. Vous voyez la candidature d'Anne Hidalgo? Et ben, encore plus triste. Sur TF1, il y avait le grand bêtisier. 3h40 d'images d'ados américains qui veulent se farcir un escalier en skate et s'écrasent les testicules sur la rampe. À part si vous aimez les rampes ou les voix sur aiguë, ça n'a pas d'intérêt. Le reste sont des vannes de Jean-Luc Reichmann. 20 probabilités de tentative de suicide du téléspectateur. 9 sur 10. J'ai donc mis la 2 en réveillonnais avec Stéphane Bern, ce qui fait moins envie sur le papier qu'une signature de bouquin de PPDA quand vous n'avez pas de marque-page et qui propose d'y remédier en plaçant son sexe à la fin du 3e chapitre. Bern était au château de Chantilly comme l'an dernier. Alors même dispositif, même lumière, ils ont dû tout tourner en 2016. Alors, on a filmé Bern en train de dire bonne année et chaque 31 décembre un imitateur ajoute 2021, 2022, hein, etc. Alors soirée populo oblige, Bern a eu Zaz et Nolwenn Leroy. J'ai essayé de mettre fin à mes jour en avalant 3 tranches de saumon d'un coup sans mâcher. Enfin, j'avais l'impression d'être un cours d'eau. Heureusement, sont arrivées nos louloutes à Inter, Clara Luciani, puis Juliette Armanet. Ah, bah voilà. Hein, il manquait juste Bertrand Belin et on avait le tiercé. Berne nous a même ressorti Gérard Lenormand, qui a fait un medley de ses plus grands succès, c'est-à-dire qu'il a chanté la balade des gens heureux. Hein, il y a eu les danseuses du Moulin Rouge, mais version post-MeToo, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que des plumes et pas un téton. Enfin, se masturber devant ça ou la poularde du réveillon avant que ta mère la cuise, non. Ça revient au même. Enfin, Bern a accueilli Pascal Obispo, hein, le chanteur qui s'est pas se rasé parce qu'une fois sur deux, il se taillait le sourcil. On était à Chantilly. Bern l'a donc lancé sur la crème, la fameuse séquence à double lecture. Les enfants pensaient qu'on parlait dessert et onctuosité, tandis que les parents consternés écoutaient Bern dire à Obispo que pour produire une bonne crème, il fallait avoir le coup de main. Véridique, hein, visionnez le replay, cette séquence a eu lieu. Parce que Bern, sous ses allures de clerc de notaire qui kiffe le Earl Grey, a en fait la moitié du pubis en feu. Il est plus chaud qu'un fennec qui a choisi
de sortir de son trou à 12h30. Obispo, au bout de 14 secondes d'allusion qui en semblait durer 30 ans et demi, a fini par dire gêné et si on souhaitait plutôt une bonne année au public. Et la Berne a réalisé qu'il n'était pas dans une soirée raga, hein, dans laquelle il s'apprêterait à chanter Mr. Loverman Shabba. Donc moi, atterré par l'utilisation faite par la présidente de France Télé, Delphine Arnaud, de mes impôts, pourtant j'aime la crème, je suis passé sur BFM. Soirée réveillon, formidable, était invité Guy Carlier, alors qu'il devait être ivre, hein, parce qu'il expliquait qu'en lui vivaient deux entités, Karl le méchant et un gentil Guy Tout. Voilà, les deux mélangés, ça donne Guy Carlier. En fait, on est tous un peu comme ça. Sophie Hitler, hein, qui n'avait pas d'Adolf Nounet. Était aussi invité le professeur Bruno Megarban, alors qu'il passe sa vie à la télé. Hein, la dernière fois qu'il est allé à l'hôpital, le vigile l'a bloqué à l'entrée en lui disant « Je sais pas qui vous êtes ». Et donc BFM a fait toute une série de duplex. Ils ont filmé les Champs-Élysées où des milliers de cons qui savaient pas qu'il y aurait rien étaient là pensant qu'il y aurait quelque chose. À minuit 6, ces losers étaient encore en train de reluquer l'Arc de Triomphe en attendant le décompte. Mais comme personne n'a pensé à les euthanasier afin de garder que les bons éléments de ce pays, ensuite ils sont rentrés chez eux. Là-dedans, un sur deux était non masqué. Megarban a alors dit « C'est pas grave, à l'extérieur, ça risque rien. 100% des médecins disent ça, mais on doit tous se balader dehors avec, même les enfants. » Enfin, moi, j'ai vu des gens quasi seuls en forêt, masqués. Alors, je sais pas, ils doivent imaginer qu'un daim atteint du Covid va s'ébrouer juste devant leur visage. Ainsi, le daim, en plus, à la Flurona, plus la chaude-pisse des daims, c'est sûr, il vaut mieux le porter, ils se disent. Donc, BFM est ensuite parti en duplex dans un cabaret de la banlieue de Lyon, où une pauvre fille s'écartelait seule sur un trapèze sous le regard torve du public à 2 grammes. Puis, dans une fête où, je vous jure que c'est vrai, les participants dansaient assis. Hein, c'est-à-dire qu'ils bougeaient de la tête jusqu'au bassin, mais rien en dessous. Hein, la même chose que quand des kayakistes se lâchent sur l'endurance. Donc là, j'ai remis la 2, parce que j'en pouvais plus. Berne était parti après une dernière blague sur la crème. Obispo a changé de numéro pour qu'il ne le rappelle plus jamais. Hein, donc, j'ai éteint. Et je ne vous souhaite évidemment pas une bonne année, mais un bon courage à tous.
Merci. Danser sur les chaises, ça fait penser à la grande vadrouille, finalement.
C'est ça, c'est un petit peu.
Autour de la table.
Avec moins d'Allemands. Et plus gentils, les Allemands.
Le nouveau roman de Philippe Besson a cette originalité-là, de ce suspense, évidemment, mais en gardant, heureusement d'ailleurs, l'écriture et le talent de Philippe Besson, Paris Briançon. C'est peut-être. Est-ce que c'est pour vous, d'ailleurs, l'un des plus originaux de tous vos romans dans sa structure
Dans sa structure narrative, oui, puisque c'est la première fois que j'utilise autant de personnages, que j'essaie de croiser autant de destins, ce qui est un exercice un peu compliqué, mais en même temps j'essaie de rester dans mon écriture, qui est plutôt une écriture assez simple, assez sobre, blanche.
Vous aimez les lieux, voilà. Et les paysages, on est servi aussi.
On retrouve mon goût pour la géographie, mais en tout cas, oui, c'était pour moi, qui ne suis pas habitué à ça, quand même une espèce de gageur d'arriver à faire exister 10 ou 12 personnages ensemble, et à nouer des liens, et à faire que, voilà, parce que il fallait, encore une fois, se mettre dans la tête de chacun de ceux-là, oui.
Et vous qualifierez d'ailleurs votre roman de roman sur le destin, sur le hasard,
sur la mécanique du hasard. C'est quelque chose comme ça, sur l'idée que à un moment on choisit pas ce qui nous arrive et qu'on se laisse emporter par le train et par ce qui va lui arriver. Donc j'aime bien cette idée-là, oui, allez, abandonnons-nous au destin.
Dans le monde de la culture, Leïla, que se passe-t-il d'autre?
On va parler de cinéma qui est en train de faire tourner le duo ultra chic Vincent Lacoste-Juliette Binoche.
Qui va le faire tourner ?
Qui les fait tourner ? Quel réalisateur les a réunis ?
Français ?
Français. On le connaît, il est déjà venu dans cette émission. Non, c'est pas Riyad Satouf.
Xavier Giannoli ?
Non plus, il est déjà venu dans cette émission. Il fait du théâtre.
Depuis 7 ans, on va pas tous balancer tous les noms. Il fait du théâtre.
Alexis Michalik.
On le connaît aussi pour ses mises en scène de théâtre.
Nicolas Briançon pour
Non plus.
Écrivain ou pas?
Il a écrit, absolument. Il a écrit pour les enfants, mais pas que pour les enfants.
Christophe Honoré.
Absolument, bravo. Oh, Christophe Honoré dans un film qui s'appellera Le Lycéen va donc réunir Juliette Binoche et Vincent Lacoste. Vincent Lacoste, c'est un habitué de Christophe Honoré. On l'avait vu dans Chambre 212, on l'avait vu aussi dans Plaire, Aimer et Courir vite. Juliette Binoche, c'est une première. Il vient ainsi étoffer la famille Christophe Honoré. C'est un tournage qui sera partagé entre Paris et la Savoie. Est-ce qu'il y aurait... Je sais qu'Arrête avec tes mensonges va être
adapté au cinéma, ça y est, c'est tourné.
Olivier Payon, c'est ça qui
réalise. Olivier Payon, qui réalise, qui avait fait Une vie ailleurs ou Tokyo Shaking. C'est avec Guillaume Tonqueda qui joue le rôle de l'écrivain, donc moi.
Et puis, c'est l'histoire d'un écrivain qui revient.
Qui revient dans ses terres natales, en Charente, et qui tombe sur le fils de son premier amour. Le fils du premier amour étant joué par Victor Belmondo. Et il y a deux temporalités, puisqu'il y a la temporalité aujourd'hui, quand effectivement il y a ce retour aux sources, et puis il y a l'histoire. Ce qui s'était passé 30 ans plus tôt entre les deux adolescents.
Il croise le sosie, en fait.
Voilà, absolument. Et là, tout d'un coup, tous les souvenirs refluent, et ça y est, c'est tourné, c'est dans la boîte. Donc là, on est à la phase montage, mixage, tout ça. Donc, un film qui sortira, je pense, à l'automne 2022.
Et vous êtes très près de la fabrication de ce film ?
Oui, j'ai suivi toutes les étapes, j'ai vu plusieurs versions de scénario, et puis je suis allé sur le tournage. On en parlait tout à l'heure, ça fait partie des moments de grâce où après, quand ça se termine, je suis très triste. C'est-à-dire qu'au fond, quand j'étais là-bas, sur place, et que je les voyais faire, Victor Belmondo, Guillaume de Tonquédec, ou les jeunes comédiens, Jérémy Gillet, Julien de Saint-Jean, c'est de la grâce, et vous vous dites quand même... ce livre est arrivé un jour comme ça dans ma vie, a déboulé, je l'ai fait comme ça tout seul, et puis ça devient un truc incarné, ça devient des voix, ça devient des corses, et puis il y a des nuances, parce que vous assistez à toutes les prises et vous voyez le travail d'un comédien qui à cinq reprises va jouer cinq fois différemment, et c'est comme moi j'ai une gratitude pour ça, j'ai un émerveillement devant ça qui est absolu, et donc c'est vrai que je suis...
Mais vous êtes mêlé de quoi, vous
moi, j'ai juste travaillé un tout petit peu sur le scénario, et c'est tout, voilà, j'ai rien fait de plus.
Mais j'adore le choix de Guillaume de Tonquédec pour vous jouer, c'est-à-dire que là...
Non, je suis pas du tout intervenu dans les choix du tout, mais moi j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, et Victor aussi, je trouve que parce que ça va être une révélation, parce que là j'ai regardé les rushs, des rushs, notamment encore hier, et il y a des moments... Il y a des gens qui se révèlent, la caméra aime les gens, donc la caméra aime beaucoup Victor, et donc c'est vrai que quand vous le regardez, que tout d'un coup il y a une émotion qui surgit, c'est très étrange, parce qu'à la fois moi je suis ramené à ma propre histoire, donc je le regarde avec le poids de la mémoire, mais je le regarde aussi comme un spectateur, et donc je suis assez submergé comme ça par l'émotion, d'un coup, j'aime beaucoup ça chez les comédiens, j'aime l'idée qu'à un moment, un type, juste par un silence, par un détournement d'épaule, par une hésitation, par une maladresse, vous emporte quelque part. Je trouve que c'est ça la magie du cinéma par rapport à celle des livres. Il y a cette idée que tout d'un coup, vous pouvez pas échapper au truc. Vous êtes devant l'image, devant le type qui incarne, et ça vous transperce, quoi.
Alors, pour reprendre la phrase que Philippe Labrois avait dite à ce micro, est-ce qu'un auteur est toujours trahi lorsque son film
Bien
est adapté?
Bien sûr qu'il l'est, tant mieux. Moi, je lui avais dit à Olivier Payon, j'ai dit, surtout ne sois pas fidèle, trahis-moi. Parce que si vous
voulez. Et Chéreau, vous avez
Bien sûr, Chéreau. Mais j'avais dit la même chose à Chéreau, j'avais dit trahis-moi, parce que il faut que.
Arrêtez de dire la même chose à tout le monde.
Non, mais il faut que le réalisateur fasse le film qu'il a envie de faire avec ses propres obsessions, ses propres souvenirs et ses propres désirs.
Oui, à partir du moment où on vend les droits, on lâche.
Et donc les gens font ce qu'ils veulent. Et donc,
oui et non.
C'est vrai que je suis intervenu.
Si on participe à l'adaptation et qu'on est présent sur le tournage.
Oui, mais si on vous recrute comme quelqu'un qui participe.
L'idée, c'est qu'après, il doit y avoir une totale liberté du créateur. C'est un autre objet. Un livre et un film, ça fonctionne pas du tout de la même manière. Et je trouve que les copier-coller des films sont souvent très ratés. Au contraire, c'est la distance et la capacité à donner de la chair qui font les choses.
Et celui-ci, alors, Paris-Briançon ?
Eh ben, on va peut-être en faire aussi quelque chose, oui.
Ça veut dire quoi, ça ?
Non, mais je sais pas. Pour l'instant, il y a des propositions. Donc tant mieux,
c'est bien. C'est ce qu'on dit d'un enfant, on va en faire quelque chose.
Après, on verra, parce que c'est toujours une alchimie. Bon, c'est toujours une alchimie bizarre, il peut se passer 10 milliards de trucs. Et puis parce qu'à un moment, il faut choisir la bonne personne. C'est-à-dire qu'il faut être sûr que...
Et dans le rêve, dans l'absolu, sans parler de Paris-Briançon, d'un réalisateur, quel réalisateur aimeriez-vous vous trahisse?
Non, mais il y en a plein que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les réalisateurs femmes. Par exemple, j'adore le cinéma de Nicole Garcia. Je trouve que, voilà, elle porte des regards qui m'intéressent beaucoup. Mais après, ça peut être plein de gens, mais il faut laisser les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà, ça c'est sûr, je suis sûr de ça.
C'est une forme de consécration pour un livre d'être adapté au cinéma?
Je ne sais pas si c'est une consécration, en tout cas c'est une bénédiction, c'est un bonheur indicible. L'idée qu'à un moment, un truc que vous avez écrit tout seul dans votre coin devient autre chose, que... C'est pareil quand je vois un de mes livres traduit à l'étranger. J'ai la chance d'être beaucoup traduit. Et vous savez, quand vous recevez votre bouquin en anglais, en espagnol, en hébreu, en chinois, vous vous dites, c'est incroyable qu'il se soit produit ça. Ou quand vous le voyez adapté au théâtre, parce que c'est encore autre chose. Et moi, je le vis toujours comme un bonheur ou une bénédiction, même si parfois il m'est arrivé de voir des adaptations théâtrales de certains de mes livres. Bon, je me disais, tiens, c'est curieux, j'aurais pas fait ça comme ça. Mais et pour autant, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire que tout d'un coup, Le livre est un objet vivant. C'est pas un truc définitif et mort. C'est un truc vivant.
Est-ce que ça pourrait être un scénario avant d'être un livre?
Ah non, c'est pas la même chose. Parce que vous y mettez
écrire pour le cinéma.
Ah Oui, ça c'est peut-être autre chose.
Oui, oui.
Mais en tout cas, quand vous écrivez un livre, il y a une espèce de d'écriture silencieuse, d'écriture intérieure, de recherche littéraire, de recherche stylistique, de recherche narrative, qui sont vraiment très différentes de ce qu'on fait pour le cinéma. Quand vous pensez au cinéma, vous êtes dans autre chose.
On en parlera demain avec En attendant Bojangles, pièce de théâtre devenue un film joué par Virginie Efira qui sera dans
livre
théâtre et film.
Une petite dernière question, qui sont les organisateurs du Rose Festival? Des femmes. Il y a un indice dans le nom.
Rose.
Elle s'appelle toute Rose.
Non plus.
D'accord.
Elle s'appelle toute Festival.
Non plus.
En rapport avec le cancer du sang?
Ouais. Non.
Avec Octobre Rose?
Rose, non.
Non.
C'est ça pourrait être ça.
Couleur, c'est un film de couleur rose.
Kennedy. Rose Kennedy.
Non plus.
Ils ont des épines.
Rose, ça peut être quoi?
Une fleur, rose. Une couleur. Un parfum.
Mm-hmm. Un oiseau. Un
pétale.
Non.
De l'alcool. Un rosé.
Une ville.
Ah, une ville.
Toulouse.
Voilà, bravo. Réponse collégiale à cette question. Et ce sont les Toulousains de Big Flo et Oli qui vont se lancer dans l'organisation d'un festival qui était prévu pour septembre 2020, puis 2021 et finalement
2024.
Ça devrait avoir lieu en 2022 en septembre.
Quelle orgie en 2024.
Voilà, on leur souhaite.
Ça me fatigue.
À Mondonville, en Haute-Garonne, Mondonville. Les six premiers noms des participants sont tombés. Il y aura Ayam, il y aura Damso, il y aura Polo et Pan, Ziak, forcément, cet événement, l'idée c'est de donner envie de retourner voir des spectacles, du spectacle vivant, des concerts, et c'est aussi une façon d'agir pour sa région d'origine et essayer de promouvoir un petit peu ce qui s'y fait de bien. Est-ce que vous avez, malgré le Covid, malgré le contexte, des envies de spectacles, de concerts?
On a tout le temps.
Est-ce que... Non, mais parce plus que souvent
jamais,
on entend.
Jamais.
Non, mais on entend quand même que cette envie peut exister, mais pour autant les gens n'y vont pas. Est-ce qu'il y a encore autre chose?
Oui, je comprends. Je comprends qu'on ait peur, je comprends qu'on se dise qu'est-ce qui va arriver quand vous réunissez une foule, surtout aujourd'hui avec Omicron, mais justement, ça aiguise encore plus le désir et l'envie. Moi, j'attends qu'on ait passé cette vague-là pour retourner effectivement au théâtre, voir Guillermo, voir ça. Et donc, non, mais il faut y aller justement, parce que c'est là que qu'est la vie. Parce que sinon, si on est juste dans son petit entre-soi, c'est un peu compliqué. C'est là qu'est la curiosité, c'est là qu'est le désir, c'est là qu'est l'appétit, c'est là qu'est...
C'est le théâtre. Qui vous manque le plus, c'est le théâtre.
Ouais, le théâtre, j'adore ça, oui. Je trouve c'est extraordinaire.
En tout cas, les théâtres restent ouverts, il faut quand même préciser.
Pour lui, ils ne sont pas touchés par les jauges, parce qu'il y a très peu de théâtres qui ont des jauges élevées. Donc c'est là, pour eux, c'est parfait, il faut y aller.
Le livre Paris Briançon sort cette semaine chez Julliard, signé Philippe Besson. Des excuses à présenter, Daniel Morin?
J'espère. Oui, déjà, désolé pour Morgane Cadignan, qui ce matin a hésité entre le karaoké bourré et l'AVC. L'année sera longue et là j'ai une pensée triste et solidaire pour les dom-toms. Désolé pour les fans du délicat, de l'élégant, du sensible Philippe Besson qui ont découvert ce matin un salaud ultra-violent qui crée des personnages pour mieux, je cite, les décaniller. J'attends le prochain livre avec impatience, même si c'est un mauvais livre, bien sûr. Désolé pour les fans du lettré, du cultivé, du sensuel, du chaudard Philippe Besson qui ont découvert ce matin un être aux goûts musicaux simple, voire simpliste, limite simplet. Et je Alors, en même temps, réécoutez, c'est vrai que c'est pas con. Hein. Et enfin, désolé pour notre invité, Philippe Besson, notre invité mélomane, qui dans une minute va fondre en larmes, conséquence directe de la nostalgie fulgurante qui va le saisir quand il va repenser au bon vieux temps de l'émission qui vient de se terminer. Ouais, compliqué le garçon.
Il faut préciser que cette semaine, Le Dernier Enfant sort en format poche.
Absolument.
En même temps que Paris Briançon sort chez Julliard, signé Philippe Besson, qui continue de signer dans Les Échos aussi.
Oui, une chronique marrante où je dézingue un peu la réalité people et choses comme ça, et les gens qui perdent le sens des limites ou qui font quelques fautes de goût.
Et Dieu sait si
vous l'avez dit que j'étais un
Dieu sait si vous en fréquentez.
Je les connais tellement bien.
La preuve, il est là.
Demain, Virginie Efira et Régis Poinsard seront justement nos invités pour parler d'En attendant Bojangles. Mais en attendant, lisez Paris Briançon. Ce roman est une réussite signée Philippe Besson, ce qui peut être un pléonasme, mais surtout avec ce rebondissement sur le...
Allez, dis-le.
Ça serait drôle.
Il aura tenu jusqu'à 12h29.
Non, ça serait génial.
C'était plus fort que moi.
Merci Philippe.
Merci Nagui, merci à tous.
À demain, passez une bonne journée. Voici Karine Campagne.
Et à la fin,